Radio Chablais, 23h. Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Est-ce bien sérieux ?
As-tu vu, je suis là ?
Sur Radio Chablais.
Attention, les prochains Noël vont être très intéressants. Le géant américain du jouet Mattel a conclu un accord de partenariat stratégique avec OpenAI. Vous savez, c'est la société qui est à l'origine de ChatGPT, entre autres. L'idée, c'est que la technologie de l'intelligence artificielle soit intégrée aux prochains jouets, comme les poupées Barbie, créées donc des poupées Barbie intelligentes, ou un jeu Uno, interactif. Alors, du côté de la Barbie intelligente, il y a un côté flippant, hein, honnêtement. Vous imaginez que ce sera quand même dans la chambre des enfants, même dans votre salon ou autre, la Barbie qui pourra vous parler, vous répondre, analyser peut-être même ce que vous êtes en train de dire, garder des souvenirs de tout ce que vous êtes en train de faire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, qui dit Barbie intelligente et autres, ça veut dire aussi interaction avec Internet et donc ultra connexion et stockage des données. Si, il faut s'en souvenir. Donc ça, on verra ce que ça va donner. Il y a un côté un peu film d'horreur quand même. Et puis pour le jeu Uno interactif, alors là, je demande à voir un petit peu le développement du truc. Mais par contre, il faut voir un point positif. C'est que si, enfin, pour une fois dans l'histoire, on a toutes et tous les mêmes règles pour le Uno, avec un jeu qui nous rappelle ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, il y aura peut-être vachement moins d'engueulades à des moments.
Est-ce bien sérieux ?
As-tu vu, je suis là ?
Sur Radio Chablais.
Radio Chablais, programme de nuit.
Est-ce bien sérieux ?
As-tu vu, je suis là ?
Sur Radio Chablais.
Et on se dirige du côté de Carthagène, en Amérique du Sud, en Colombie, plus exactement, où le fantasme des chercheurs a été retrouvé il y a de nombreuses années. Mais maintenant, il faut se poser la question, comment va-t-il être renfloué? À qui appartient-il? On parle de l'épave du San José, un galion espagnol du XVIIIe siècle qui a été coulé en 1708 lors d'une bataille entre Espagnols et Britanniques, je vous le disais, au large de Carthagène. Et dans ce bateau, il y aurait a priori 200 tonnes d'or, d'argent, d'émeraudes, des millions de pièces de monnaie. La valeur aussi, selon les chercheurs, entre 3,5 et 18 milliards d'euros. C'est énorme. Alors bien sûr, de nombreuses personnes voudraient se l'approprier. C'est le débat actuel de savoir à qui appartient désormais ce trésor. Il est revendiqué bien sûr par la Colombie, qui aimerait le renflouer le plus vite possible. Mais l'Espagne a fait de même, puisque c'était un galion espagnol, en disant « il était à nous à l'époque ». Il y a aussi le groupe autochtone bolivien Quara, qui est une justement tribu qui vit à proximité. Il y a aussi les Américains qui se sont mis sur le coup avec les entreprises de chercheurs d'or qui justement avaient retrouvé les premiers ce galion. Autant vous dire que vous imaginez, pour une valeur entre 3,5 et 18 milliards d'euros, la bataille va être très très rude.
Est-ce bien sérieux ?
As-tu vu, je suis là !
Sur Radio Chablais.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
C'est chaud.
Sur le grill.
Le Foussol, c'est un festival du four solaire et ça a lieu ce 21 juin prochain du côté d'Yvorne. On en parle avec Marie du comité d'organisation. Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être un peu nous expliquer la manifestation et ensuite on décrira ce que c'est qu'un four solaire et comment ça fonctionne, mais peut-être un petit peu la manifestation, le programme de ce 21 juin prochain à Yvorne.
Le festival du four solaire, c'est à la fois un concours et des démonstrations, un concours de four solaire où on demande de cuisiner un plat avec des ingrédients issus de la région, puisque nous sommes aussi sous l'égide de Aigle Ville du Goût, et un plat cuisiné avec le soleil.
On va expliquer, comme je le disais, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne un four solaire, mais vraiment rappeler que c'est une compétition de cuisine avec du four solaire. Mais alors concrètement, qui vient et comment ?
Alors vient qui possède un four solaire, voilà, et qui a envie de tester son four et ses habiletés culinaires. Le four peut être emprunté, acheté ou construit par soi-même. Dans nos critères de concours, il y a quand même une question de d'ergonomie, de matériaux recyclés utilisés, de performance thermique et bien sûr de qualité gustative du plat qui est créé avec le four.
Alors, j'imagine que si vous avez créé cette compétition, c'est parce que vous maîtrisez un petit peu le sujet. Vous avez vous-même dans le comité des fours solaires.
Tout à fait. C'est par l'association BDB Bout de Bois où il y a eu le premier four solaire qui a été créé dans le quartier, dans un quartier d'Aigle. Et suite à ça, l'idée est venue de faire un festival du four solaire et à l'intérieur du festival, une compétition, voilà, de four.
Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de rappeler aussi, et c'est très important, qu'on peut venir admirer ces fours solaires, découvrir, mais surtout, il y a des démonstrations. Donc, si on est intéressé au concept des fours solaires, eh ben, on peut venir voir comment ça fonctionne, on peut venir en parler avec vous.
Exactement, on peut venir voir comment fonctionnent différentes sortes de fours solaires, des fours solaires plus ou moins portatifs, plus ou moins grands, et puis il y a aussi une bourse aux matériaux et des conseils qui peuvent être donnés pour la fabrication d'un four solaire fait maison.
Alors maintenant, ça c'est pour les explications, mais il va y avoir aussi des animations, hein, parce qu'on peut se restaurer. Il y aura bien sûr, parce qu'on est quand même dans le Chablais, on va pas déconner, de quoi aussi s'abreuver, bien sûr, et se rafraîchir. Mais il y aura au niveau des animations, Google Music de l'hashtag, musique de la rue. On fait une petite pause musicale, Marie, sur Radio Chablais. On revient ensemble d'ici quelques tout petits instants pour présenter comment ça fonctionne un four solaire et qu'est-ce que c'est. À tout de suite.
À tout de suite.
C'est chaud. Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud. Sur le grill.
Le Foussol, c'est un festival du four solaire. C'est ce 21 juin prochain du côté d'Ivorne en journée. Et il y a quelque chose d'hyper intéressant avec ces démonstrations qu'il va y avoir, c'est qu'on peut comprendre comment ça fonctionne. On pourra déguster des plats. C'est une compétition, hein, le four solaire. Si vous en avez ou si vous voulez en créer un peut-être d'ici là, vous avez encore le temps, ben pourquoi pas. Mais ensuite, eh ben, un four solaire, on essaiera de comprendre ce jour-là comment ça fonctionne. Alors justement, Marie, c'est quoi un four solaire et comment ça fonctionne?
La source d'énergie, c'est le soleil et par un système de miroir, on vient chauffer dans un plat, dans une casserole, les aliments pour qu'ils cuisent. Alors c'est un système de cuisson plutôt lente, mais les fours solaires, même construits artisanalement, peuvent monter jusqu'à 150 degrés.
Oui, donc ça permet vraiment de créer quelque chose. Et puis ensuite, ben, on imagine que vous allez aussi donner des conseils ce jour-là. Alors, comment on peut créer son propre four solaire? Où on peut acheter, si on veut acheter son propre four solaire ou les matériaux? Puis après, qu'est-ce qu'on peut cuisiner? Parce qu'il y a quand même des techniques là derrière.
Alors, pour créer son four solaire, durant notre festival, il y aura la démonstration de fabrication d'un four solaire portatif, donc des ateliers pour construire ce four. Il y aura aussi donc plein de démonstrations de différents fours. Et qu'est-ce qu'on peut cuisiner? On peut tout cuisiner à partir du moment où on prend son temps. Alors c'est sûr que faire rôtir un poulet, c'est un petit peu compliqué, mais faire une ratatouille, faire son pain, faire des tartes, faire des viande mijotée, il n'y a aucun problème.
C'est génial, j'adore le concept. On rappelle le site internet hein, pour cet événement, foussol.ch, mais c'est foussol.ch pour toutes les informations. foussol@proton.me aussi pour les informations, pour les inscriptions. Puis simplement, moi je pense que c'est vraiment l'occasion de venir découvrir comment ça fonctionne, de venir apprécier les démonstrations, de venir goûter les produits qui seront faits. Puis alors il y a aussi, c'est important de le dire, une bourse aux matériaux. Donc ça veut dire qu'en plus, si on veut tout à coup se créer son propre four solaire ou réparer son four solaire, ce jour-là, on a tout ce qu'il faut sur place.
Effectivement, il y a une partie des matériaux utiles à la construction d'un four qui seront disponibles sur place. Voilà, et des conseils et plein d'échanges pour ceux qui ont déjà construit leur four ou qui ont déjà des fours, pouvoir posséder son propre four et se lancer dans la cuisson solaire.
Et puis, si on peut parler là d'écologie, on est au top du top, justement, de l'écologie et du développement durable, puisqu'on consomme rien d'autre que l'énergie du soleil avec ce four solaire. Tous les bons conseils pour cette deuxième édition du Foussol, Festival du Four Solaire, ce 21 juin prochain à Ivorne. Marie, qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire, à part de venir?
Qu'il y aura du soleil, il y aura une bonne ambiance et qu'on se fera plaisir, voilà, au sein du marché d'Ivorne.
Oui, parce qu'il faut le rappeler aussi, vous l'avez dit et très bien dit, il faut le rappeler, c'est au sein du marché d'Ivorne ce jour-là, toute la journée, le festival du four solaire de 9h à 15h. Merci beaucoup, plein succès.
Merci beaucoup, belle journée.
Foussol.ch, foussol.ch.
C'est chaud. Sur le grill.
Radio Chablais, programme de nuit.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
sur Radio Chablais.
Caroline, ce matin avec nous pour nous présenter une nouvelle chronique, bonjour.
Mais bonjour.
De quoi qu'on parle ce matin ?
De nous.
Ah tiens.
De l'homme, des animaux, des mammifères.
Des humains.
Voilà, je me posais la question suite au Covid, en fait, est-ce qu'on peut attraper les maladies des animaux ?
Ah, semble-t-il qu'il y a certains trucs qui peuvent se transmettre de temps
alors,
en temps.
Alors c'est très rare, ouais, c'est pratiquement pas possible, souvent les espèces animales se préservent, mais il y a quand même des individus qui peuvent être infectés par des animaux, notamment si les microbes sont très violents. Et dans les microbes qui tuent les animaux, il y a eu par exemple l'Ebola.
Ah oui.
Et c'est les animaux qui ont transmis à l'homme, mais comme ça va tellement vite... Ça, c'est pas vraiment, ça se propage pas plus loin. Heureusement.
Et heureusement. Et d'ailleurs, heureusement, si vous voulez jouer à vous faire peur, regardez le film Alerte avec Dustin Hoffman, il fonctionne bien pour ça.
Non. Non, je crois pas. J'aime pas les choses qui font peur. Mais c'est vrai que des épidémies meurtrières, on n'en a pas vraiment vécu beaucoup. Et pour éviter les drames, par exemple, en France, on hiérarchise les maladies infectieuses animales. Ils essayent de voir celles qui sont bénignes, pas bénignes. Comme ça, ils arrivent à observer et voir s'il y a des risques de propagation sur les espèces, les animaux domestiques. C'est pour ça que parfois, on met toutes les poules, on les confine par exemple, on confine les cochons. Ça s'appelle les maladies zoonoses qui concernent potentiellement des humains qui pourraient les choper.
Qui on pourrait partager trop de choses.
Voilà, donc les zoonoses, c'est pas bien.
C'est pas bien.
Voilà, qu'on se le dise.
Merci
on n'a pas appris grand-chose, mais c'est pas grave.
Si, si, on a compris un truc. Merci beaucoup.
À bientôt.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Bonne. J'ai une étude qui m'a fait grandement plaisir, Mélanie, à te partager, à vous partager tous ensemble. Nous qui aimons la musique live et la musique en général, sache que la musique en direct rend aussi heureux que les câlins. Je suis tombé sur cet article, ça en a beaucoup parlé la semaine dernière et donc je me suis dit, je vais le reprendre cet article et cette étude pour vous la partager parce que c'est une expérience en fait qui a été menée lors du festival de musique de Dresde en Allemagne et puis ça montre cette expérience qu'un concert de musique fait plus d'effet dans notre corps qu'un câlin.
C'est drôle.
C'est incroyable ça.
Est-ce que ça dépend aussi du style de musique ou pas du tout ?
Alors là c'était de la musique classique je crois.
Okay.
Alors il parle pas du style de musique, il parle du fait que c'était de la musique live.
Ok.
C'était une étude qui a été menée lors d'une soirée placée sous l'égide Sound and Science.
Okay.
Alors, ils ont pour ça mesuré le taux d'ocytocine dans le sang avant et après cette expérience musicale. Alors au début, la valeur moyenne était de 37,54 picogrammes par millilitre. Et puis ensuite, c'est passé à 203,17 picogrammes par millilitre. C'est incroyable.
C'est ouf.
Hein, et puis il faut savoir que l'ocytocine, ça fait du bien parce que ça réduit le stress, l'anxiété, la douleur.
C'est l'hormone de l'amour.
Voilà, on se sent vraiment rempli. Quand on se sent rempli de chaleur, c'est ça, c'est l'ocytocine.
Ça et fait donc, tout là, chaud dans le cœur.
Oui,
comme ça.
Oui. Ah non, mais c'est incroyable cette sensation. Et donc là, ils l'ont ressenti très fort parce qu'il faut savoir que normalement. Une étreinte de 20 secondes avec son partenaire entraîne une augmentation de l'ocytocine de 3 à 5 picogrammes par millilitre et une proximité physique très étroite provoque un plus de 150 picogrammes par millilitre. Donc on est quasiment 80 picogrammes par millilitre de moins que ce que...
Mais c'est fou quand
même. C'est fou, hein.
Ouais, moi j'aurais pas pensé, mais...
Il faut changer de partenaire
si
parce que...
Oui,
alors,
c'est ça.
Si...
En fait, ça dépend à quel stade de la relation tu es quand tu fais ce...
C'est des moyennes, donc voilà, c'est pour vous dire que la musique live, chers amis, qu'elle soit internationale ou suisse, il faut aller la voir et la soutenir.
Mais
parce qu'on prend des super jets de bonheur.
C'est ça. Non seulement on soutient nos artistes, mais en plus de ça, on se fait plaisir.
En plus, selon les informations recueillies dans cette étude, de nombreux auditeurs ont fait état d'un fort sentiment de solidarité avec les musiciens ainsi que les autres spectateurs du concert. On est tous dans la même galère,
entre
guillemets.
C'est ça, il y a une espèce d'unité,
voilà.
Non ?
Oui, c'est vrai, c'est fou.
C'est génial.
Et donc, je trouve ça génial dans le monde dans lequel on vit de pouvoir avoir ce sentiment-là en participant à un concert de musique live.
Bah, après, la musique, c'est vrai que c'est connu pour
ça
être... Bah oui, et puis surtout pour être vecteur d'émotions fortes. Donc
oui,
c'est surprenant que ça donne plus de joie et de sentiments d'amour qu'un câlin, mais ça surprend qu'à moitié.
Mon avis, c'était sur la fin de la relation, là, c'est pas possible. Non mais oui, après tu peux dire, c'est pas possible, effectivement, il y a eu une étude qui a démontré ça, et donc moi surtout, ça m'a fait penser à moi, qui vit un concert en live, et surtout si c'est un concert live d'un artiste suisse. Et si c'est Stéphane ou Zoémé actuellement, eh ben, je peux vous dire que je fais péter les scores. Parce que pourquoi? Parce que pour moi, j'aurais encore un sentiment de fierté énorme de dire, mais écoutez, regardez voir ça, sur scène, c'est des artistes suisses, et ça marche, et ça nous procure des sentiments, et voilà, c'est un sentiment de fierté aussi de voir que, en Suisse, on a de la bonne musique, et il faut aller la soutenir dans les festivals et dans tous les concerts qui peuvent se faire durant cette saison, la belle saison estivale, là, il y a de la musique partout.
Bah voilà, comme
donc,
ça,
allez
le
vous
message.
Faire kiffer, allez vous faire monter votre taux d'ocytocine.
Bah, okay, allez regarder de la musique live, vous avez aucune excuse pour cet été.
L'un était gris, l'autre à la masse, double face. C'est tous les jours de 9h à midi sur Radio Chablais.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Speak English.
With Mélanie.
Oh my god.
Where is Brian? Brian is in the kitchen.
Gratitude à l'honneur pour cette expression anglaise. Pourquoi gratitude? Vacances d'été, tu nous disais tout à l'heure, on arrive aux vacances d'été, gratitude.
Écoute, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de pouvoir partir en vacances.
Ah oui, c'est vrai. On pense fort à eux, effectivement.
Voilà, il y en a qui n'ont pas de vacances du tout, donc...
Pense aussi à eux. C'est vrai que nous, on est là avec notre joie, notre bonne humeur, on parle de vacances et tout ça. T'as bien fait de penser à tous ceux et celles qui ne peuvent pas partir. On pense très fort à vous, puis ça tombe bien parce que Radio Chablais sera là tout cet été pour vous faire passer le meilleur été possible.
À fond, bon, peu importe là où vous êtes. Alors, l'expression du jour, c'est « count your blessings ». Donc, littéralement traduit, ça veut dire...
Comptez les blessés. Blessing, ça veut pas dire blessé.
Blessing, ça veut dire bénédiction.
Ah bah voilà.
Donc compte tes bénédictions, ça veut dire. D'après toi, cette expression, elle voudrait dire quoi?
Bah c'est quelque chose autour de la gratitude, à mon avis.
Bah c'est vrai que j'ai un peu vendu la peau de l'ours. Ça veut dire en fait qu'il faut apprécier les bonnes choses dans notre vie, surtout quand on se sent déprimé ou qu'on fait face à des difficultés. Je te donne un exemple, évidemment. Imaginons, un matin, tu arrives au boulot, t'es mort de fatigue, t'es au bout du fart, et puis tu rêves de tout plaquer, de prendre un billet, aller simple quelque part avec la mer, la plage, et puis te poser sur un transat, les doigts de pied en éventail.
Très bien, ouais. Tu parles de ma vie, là.
Oh non, mais pas du tout. Toute ressemblance avec des situations quotidiennes
qui peuvent exister, ouais.
Que sont complètement fortuites. Donc, on va te dire... Axel, you should count your blessings parce que tu fais le job de tes rêves dans de superbes conditions. Pas tout le monde a la même chance que toi.
C'est vrai.
Donc en gros,
mais c'est vrai ça. Hein.
Mais c'est comme ça en fait qu'on l'utilise dans l'expression, mais en même temps, comme tu dis, c'est vrai. Parce que la situation, elle pourrait être 10 fois pire avec un job que tu détestes, un salaire de misère et des collègues que tu peux pas piffrer. Donc les choses peuvent être pires. Count your blessings. C'est une expression qui est quand même assez explicite. Hein. On compte ses bénédictions pour se remémorer que tout n'est pas si terrible en fin de compte. J'ai pas réussi à retrouver avec précision les origines de cette expression, mais il semblerait que ça viendrait de la religion. En particulier d'une ancienne tradition hébreuse qui disait que chacun devait essayer de recevoir 100 bénédictions par jour. Donc en gros, trouver 100
personnes qui disent purée, t'es trop bien toi.
Non, mon pote. Non, pas des compliments, mais justement voir des belles choses
je vis dans un pays en paix.
De se dire, de trouver 100 choses pour lesquelles tu te sens
privilégié.
Oui, voilà, c'est ça. Et à la fin de la journée, donc il fallait compter combien on avait reçu de bénédictions pour savoir si on avait pu atteindre les 100. Alors ça, je sais pas trop si c'est vrai, si c'est un mythe ou une légende.
C'est beaucoup
quoi que
quand
ce
même
soit.
100. Hein.
Oui.
Est-ce qu'on arriverait, nous, maintenant, si on fait l'exercice, à trouver 100 bénédictions, 100 trucs
qui...
Mais tous les jours, il faut que ça soit différent ou on peut avoir les mêmes? Genre, tu te réveilles et puis tu dis, j'ai ma femme à côté de moi, ça c'est une bénédiction.
Oui.
Je me réveille, j'ai mes deux enfants en vie et en bonne santé, c'est une bénédiction, tu vois.
Exactement.
Mais c'est toujours, le lendemain, c'est de nouveau la même chose.
Ouais, après, c'est vrai que là, 100, c'est beaucoup. Mais je pense que la pratique, si on voulait la faire, il faudrait trouver 10 choses différentes chaque jour. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça te force à être dans un état d'esprit où tu es
positif,
hyper positif, puis hyper reconnaissant de toutes les belles choses qui se passent dans ta vie.
Je pense que tout le monde peut faire cet exercice tous les jours.
Mais ça, c'est hyper bien, surtout quand on a un peu le moral dans les chaussettes et tout, se dire, ok, ben, ce soir, avant d'aller dormir, je vais faire une liste des 10 choses pour lesquelles je suis hyper reconnaissant, reconnaissante. Et puis, ça aide, en fait, à, sur un moyen terme, à remonter le moral à fond.
C'est vrai.
Et en fait, quand tu te mets dans cet état d'esprit, c'est comme si tu mettais un filtre sur devant les yeux où tu vas voir en fait que les belles choses qui se passent et tu vas voir dans toutes les situations des opportunités.
Ah, c'est beau. Ah là là.
Bon, et sinon, est-ce qu'on a un pendant en français pour
J'arrive
cette expression? Count your blessings.
Ça, t'as trouvé quelque chose?
Moi, j'ai trouvé un seul truc. Je sais pas si ça compte comme une expression, mais estime-toi heureux.
Ouais. Des fois, t'as l'air d'être plutôt de te faire engueuler, mais estime-toi heureux.
Ouais. C'est vrai.
Tu pourrais pas avoir à manger, tu vois. C'est
oui, c'est vrai parce que
t'as pas faim ou t'arrives pas à finir ton assiette ou tu trouves pas bon les choux que maman a fait. Bah, tu peux t'estimer heureux parce que toi au moins t'as des choux à manger, tu vois.
Oui.
C'est plutôt bien ici que je te fouette.
Mais mais je pense que count your blessings, c'est quand même. On le dit pas forcément sur le ton du reproche, mais c'est un peu. Écoute,
voilà.
Ouais, c'est une situation un peu merdique, mais estime-toi heureux que ça ne soit pas pire.
Estime-toi heureux alors peut-être.
Donc ouais. Mais bon, si vous avez une autre expression, vous n'hésitez pas à réagir sur le WhatsApp de la radio au 079 364 31 06.
Félixienne.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Elle s'appelle Kings Elliot. Mélanie, tu la connais bien. Tu l'as découverte comment, toi?
Moi, j'ai découverte grâce à Instagram. C'était l'époque où je postais énormément avec ma musique. Mm-hmm. Et puis, elle est venue commenter. Et donc, moi, je suis allée regarder son profil. Puis, c'est comme ça qu'on a commencé à se suivre. Et que j'ai suivi de très près tout ce qu'elle a fait. Et en fait, la notoriété qu'elle commence à avoir à l'international, c'est clairement mérité.
Bah, tu vas pouvoir aller commenter sa récente sortie. Un titre qui s'appelle The Promises.
Promises, ouais.
Avant de l'écouter, quelques mots quand même sur Kings Elliot, si vous ne la connaissez pas. Elle est en fait, elle est née dans le canton de Schwytz, puis ensuite elle est partie s'installer en Grande-Bretagne, et puis elle était souvent obsédée par les paroles et les musiques des chansons qu'elle aimait. Elle les a toutes imprimées à l'époque quand elle était jeune. Elle a mis ça dans un classeur, et puis après elle reprenait les paroles. Et puis elle réfléchissait à ses paroles et savoir pourquoi ça la touchait tant. Elle était un peu, donc elle le dit, obsédée par les paroles et les mélodies. Ça a toujours été comme ça. Et elle s'est fait connaître en gros sur Internet. Moi, c'est comme ça que je l'ai découverte il y a quelques années de ça déjà, où je l'ai croisée, je crois, sur Twitch. C'est une plateforme de partage de vidéos où elle s'entretenait avec les gens qui la suivaient et elle interprétait des titres sur son Twitch. Je me dis, mais c'est quoi cette voix de malade?
Mm-hmm.
En plus, j'étais faire des recherches et j'ai vu qu'elle s'appelait Kings Elliot. Et bien sûr, elle habitait en Grande-Bretagne, mais elle était suisse. Et alors moi, quand j'adore les Suisses, je l'ai suivie et c'est vraiment de belles musiques qu'elle nous fait, un talent artistique unique qui a été célébré au fil des ans par des célébrités qui l'ont repéré. Alors attention, les célébrités. Lewis Capaldi, qui l'a déjà entendu et qui l'a félicité. Reese Witherspoon.
C'est... L'actrice, donc.
Oui, bien sûr.
Oui.
Bah, tu l'as reconnue grâce à ma magnifique prononciation. Ces deux personnalités l'ont décrite comme future star. Et ça fait plaisir. Elle a des chansons qui ont été reprises dans des séries comme Grey's Anatomy. C'est incroyable. Et puis, elle a même contribué à la chanson thème du jeu vidéo à succès. Alors... je l'ai pas joué, il s'appelle The Callisto Protocol. Elle a fait pas mal de belles choses et récemment, elle a obtenu un prix en Suisse, parce que c'est vrai que on oublie souvent de féliciter nos artistes suisses, surtout quand ça grandit en Grande-Bretagne, mais là elle a quand même gagné récemment le Best Breaking Act au Swiss Music Awards. Donc ça commence à s'imposer et ça fait vraiment plaisir, parce que il faut savoir qu'elle a fait des premières parties quand même de concerts à l'époque. Elle a fait des premières parties
De Lewis Capaldi aussi,
exactement, de Lana Del Rey, Stephen Sanchez, Imagine Dragons aussi. Ça, c'était avant.
Ouais.
Ensuite, elle a pris une pause pour sa santé mentale parce qu'elle commençait à avoir un peu too much. Puis là, elle revient avec un premier projet d'un long play, parce qu'à l'époque, elle a quand même sorti des EP, donc des petits projets, des courts projets.
Qui valent quand même la peine d'être écoutés.
Ça veut pas dire que c'est pas bon, hein, c'est excellent. Et puis là, elle a prévu de sortir un album qui sera publié le 26 septembre. Il va s'appeler Born Blue. Et à l'intérieur, ce titre de Promises. Un morceau d'indie pop poétique et émouvant qui explore les conséquences d'une relation brisée par des promesses non tenues. Est-ce que ça te dit d'écouter ce nouveau petit bijou?
Mais tellement.
Ah, je suis Radio Chablais. Programme de nuit.
Du Chablais, l'heure idéale pour en apprendre plus sur les légumes, Mélanie.
Exactement. Alors, c'est vrai que c'est un peu la grande question de nutrition. Qu'est-ce qui est meilleur pour notre santé? Les aliments, fruits et légumes, frais, congelés ou en conserve? Parce que c'est vrai qu'on entend tellement de choses à ce sujet qu'on ne sait plus vraiment à quel sein se vouer.
Ouais.
Toi, tu dirais, si on devait faire un classement de qu'est-ce qui est mieux pour notre santé, tu dirais quoi?
Les
frais, congelés ou en conserve?
Alors, en premier, les légumes frais, bien sûr.
Et ensuite?
Ah, j'hésite. je sais pas. Peut-être en boîte et congelé, mais...
En boîte et ensuite congelé?
Ouais, mais okay. Peut-être que c'est l'inverse, parce que congélation permet de garder plus de choses... ouais. De valeurs nutritives, voilà.
On va faire un petit classement. Alors évidemment, ce classement, il est à prendre avec une pincée de sel. Mais c'est pas un vilain jeu de mots.
Non mais on est où là? On est à l'école du rire ou quoi?
On nous dit... Oh, ça pas mais... C'est pas mauvais. On nous dit toujours que les légumes et les fruits frais, c'est super bon pour la santé. Mais on oublie de préciser qu'il faut impérativement les acheter de saison et chez le producteur local.
Ouais, ça c'est vrai.
Et évidemment, après, il faut les consommer le plus rapidement possible après achat. Parce que si on fait pas ça, si on les achète pas de saison et chez le producteur local, eh bien, les légumes et fruits frais sont en bas du classement. Et tu me diras,
ah bon,
mais comment ça se fait qu'ils sont en bas du classement?
Quand, si c'est pas de saison, ils sont en bas du classement, c'est
si
ça?
C'est pas de saison et que ça n'a pas été acheté au producteur local. Pourquoi?
Okay.
Parce qu'en gros, la qualité nutritive de ces aliments va s'altérer au contact de l'air et de la lumière. Et donc, un légume qui est conservé plus de 2 jours au frigo, par exemple, perd 50% de ses vitamines.
Oh.
Ouais. Et
je suis choquée.
Les légumes et puis les fruits qui ont fait des longs voyages pour arriver jusqu'à dans nos rayons, ils perdent évidemment beaucoup de leur teneur en vitamines durant le trajet. Donc un fruit exotique qu'on va acheter, il a déjà perdu pas mal de vitamines. Mais bon. Et puis les légumes qu'on consomme en conserve sont normalement conditionnés ils sont mis en boîte très rapidement après leur récolte. Donc ils conservent leurs nutriments. Par contre, dans le processus de les mettre en conserve, on va chauffer tout ça à plus de 100 degrés pour tout stériliser, ce qui va quand même détruire un certain nombre de vitamines qui, là aussi, vont se retrouver dans l'eau de cuisson. Donc, pour avoir tous les nutriments nécessaires quand on consomme des légumes en boîte, par exemple, il faudrait les consommer avec leur jus. Mais tu te doutes bien qu'il y a un petit couac, hein, parce que, malheureusement, la plupart du temps, eh bien, ils vont rajouter du sel dans l'eau parce que c'est un très bon conservateur naturel, le sel. Et du coup, c'est pas très très bon pour la santé. Des fois, il y a du sel, des fois, il y a du sucre aussi, selon comment. Donc, c'est pas forcément le mieux pour la santé.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors?
Ça veut dire que les légumes congelés sont en tête de ce classement.
Ok.
Si on part du principe que les fruits frais, on les a pas achetés chez le producteur. Mm-hmm. Parce que évidemment, sinon ça, c'est le numéro 1 et qu'il faut privilégier.
Donc, si j'ai bien compris, si vous voulez vous faire un max de kiff et manger comme il faut aller chaque jour acheter les légumes qu'on consomme le jour même.
C'est-à-dire que tu peux acheter les légumes frais pour les 2-3 premiers jours de la semaine.
Ouais.
Et puis après, ça vaut la peine.
Parce que tout le monde fait comme ça, on va le samedi faire ses courses pour toute la semaine qui arrive. Et donc, les légumes perdent forcément en qualité au fil de la semaine.
Par exemple, si on fait nos courses le samedi, on va acheter pour les fruits frais pour le dimanche, le lundi, potentiellement pour le mardi. Et ensuite, si on n'a pas le temps d'aller refaire des courses, eh bien, on va privilégier plutôt les légumes congelés. Parce que les légumes, en fait, ils sont généralement congelés tout de suite après la récolte. Donc, ils vont garder un maximum de leurs vitamines.
Ouais, bon.
C'est important de préciser qu'il ne faut pas décongeler ces légumes avant de les mettre à la poêle ou au four. Faut y aller franco. Parce que sinon, si on les fait décongeler, eh ben, ils vont commencer à perdre leur valeur nutritive.
C'est marqué sur l'emballage maintenant.
C'est vrai?
C'est cuir congelé maintenant, ouais, c'est marqué.
Ah, j'ai jamais fait attention, je t'avoue. Mais donc voilà, on va pas se mentir.
Tu feras ça quand tu arriveras à lire.
Voilà, ça c'est fait. T'en as d'autres, des comme ça aussi?
Non, mais aussi mauvaise, non. Je crois que je vais me mettre à genoux pour m'excuser, parce que c'est vraiment pas très sympa.
Voilà. Non, non, mais bon, tu sais, j'ai l'habitude. Et puis, comme on dit, lundi, tout est permis.
Ouais.
Enfin voilà, donc les légumes congelés, c'est facile à stocker hein, sur le long terme. Et puis ça permet aussi de faire pas mal de belles économies, parce que ça coûte généralement moins cher que d'acheter tous nos légumes et fruits frais.
C'est vrai.
Donc voilà, il faut quand même se gaffer, et on va finir sur ça, qu'il y a une date limite pour les surgeler. C'est-à-dire qu'on peut conserver les légumes jusqu'à 12 mois au congélateur en moyenne, mais il y a des différences selon les variétés. Par exemple, le céleri et le réfort, bah, ça se garde 6 mois, et les petits pois et les carottes, ça se garde jusqu'à 18 mois.
Ok.
Donc, regarder la.
C'est surgelé, alors ça me réconcilie un petit peu, parce que quelquefois nous on fait le repas, mince, il manque des légumes, on va dans le congélo parce qu'on a plus de légumes valables, on en sort et puis en fait ils sont extrêmement bons pour la santé,
oui.
Et donc je suis très heureux.
Bon, voilà,
magnifique,
comme ça.
Merci beaucoup de m'avoir réconcilié avec les produits surgelés et puis là on va se poser des questions par rapport aux produits frais. Il faut
et de saison.
Voilà, et de saison, il faut faire attention quand on achète de pas en acheter trop, et puis d'aller se resservir chez le producteur directement, ou chez le maraîcher une deuxième fois dans la semaine. C'est ce que j'ai retenu.
Oui. Après, on va pas commencer à être genre.
Mais si on veut faire bien, voilà.
Oui, si on veut faire bien.
On n'arrive pas, mais si on essaie de faire
achète
bien.
Des fruits frais et des légumes frais au supermarché, il faut les consommer rapidement.
Mais ça évite aussi d'en acheter trop, parce que des fois on achète trop, puis ça pourrit.
Exact.
Et puis après, c'est perdu. Donc autant aller deux fois dans la semaine, comme ça. Et ça fait du bien au porte-monnaie et aussi à la santé. Merci beaucoup, Mélanie.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Voici les titres du journal.
Une 15e édition synonyme de succès pour la fugue chablaisienne. Hier, ils ont été environ 10 000 à découvrir les 16 aires de joute jalonnant le parcours de 36 km. On fait le point dans ce journal. 2500 m² de verdure, un espace de rencontre et de détente. Le parc Montséjour à Aigle a ouvert ses portes au grand public ce samedi. La police cantonale valaisanne organisait ce samedi un rallye didactique de prévention routière pour les motards. 150 conducteurs de deux roues de la région ont pris part à l'événement.
Le soleil est de retour et il continuera à briller demain. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Martine Vustiner. Bonjour Martine.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Et on commence ce journal avec Jennifer Setou, présidente du comité d'organisation de la fugue chablaisienne. Bonjour.
Bonjour Martine.
On va donc déjà revenir sur cette 15e édition de la FUC qui a eu lieu hier. On peut déjà parler d'un beau succès.
Oui, alors franchement, ça a été royal.
Vous êtes satisfaite? Le beau temps était au rendez-vous?
Oui, le comité est vraiment satisfait de cette journée et puis de tout le déroulement et de tous les bénévoles. Enfin, ça a été vraiment une édition très spéciale et avec beaucoup, beaucoup de bonne humeur. C'était vraiment chouette.
Un événement qui visait, entre autres à l'origine, à fédérer le Chablais. Est-ce qu'on peut dire que c'est toujours une mission accomplie?
Oui, je pense. C'est une mission accomplie, puis que les communes tiennent à cœur de faire perpétuer chaque année, ouais, vraiment.
Bon, on parle de à peu près 10 000 participants. Pour vous, c'est une belle réussite? On peut encore en avoir plus de monde sur ces routes?
Je pense qu'on peut avoir encore plus de monde, mais c'est vrai que 10 000, c'est, je pense, depuis toutes ces années, c'est un peu le chiffre qu'on arrive à plafonner dès qu'il fait très beau. On a eu un peu moins l'année passée avec la pluie, mais on a eu énormément de monde quand même. Donc je pense que 10 000, c'est peut-être le plafond, mais c'est toujours un challenge d'essayer d'arriver plus haut. Ouais.
Un challenge aussi, l'itinéraire, chaque année, quelques modifications. Vous voulez innover tout le temps, c'est quelque chose aussi d'important pour vous?
Oui, pour nous, c'est important de faire découvrir d'autres chemins praticables hors annuel, hein, parce qu'on ouvre des routes qui ne sont pas forcément ouvertes toute l'année au vélo, faire découvrir des petits coins pas forcément praticables toute l'année. Donc, c'est vraiment important que chaque année, on cherche un petit peu toutes ces petites routes pour notre plaisir.
Et puis, ben, on disait, de nombreuses communes qui ont participé, ça prend aussi toujours, vous arrivez toujours à avoir des partenaires et à créer des alliances entre eux.
Oui, alors ça aussi, c'est aussi un défi pour nous chaque année, hein, d'essayer de trouver des communes partenaires pour aussi varier notre parcours, mais aussi pour attirer plus de monde, les communes qui sont aussi partenaires, donc font beaucoup de pubs aussi chez eux, et donc ça aussi, ça amène du monde. Donc pour nous, plus on est de fous, plus on rit.
Et puis une édition 2026 dont le rendez-vous est déjà pris.
Oui, le rendez-vous sera le 14 juin 2026.
Alors on espère pour le 14 juin 2026 une même météo qu'hier avec peut-être même pas d'orage.
Voilà, peut-être, mais bon, bah voilà, on peut pas tout avoir. Hein. On a eu la pluie l'année passée, cette année c'était un peu mitigé sur la fin, donc on a eu de la chance.
Merci beaucoup Jennifer, c'est tout. Je rappelle, vous êtes la présidente du comité d'organisation de la FUC Chablaisienne.
Merci à vous, une toute belle journée.
Un poumon vert au cœur de la ville d'Aigle.
La ville d'Aigle a fêté ce samedi l'ouverture du parc Montséjour qui était jusqu'alors fermé au public. Situé au centre-ville, à deux pas de la gare, cet îlot de verdure de 2 500 m² permettra à la population aiglonne de respirer, mais aussi, pourquoi pas, de se rencontrer. Stéphane Montangéro, municipal Aiglon, se réjouit de l'ouverture de cet espace offrant de multiples possibilités.
Ce parc, c'est simplement un espace qui est mis à disposition de la population. C'est un parc qui était fermé au public et qui a été réouvert par la municipalité afin d'en faire un lieu paisible, un lieu d'accueil, un lieu où on peut se poser, où on peut se reposer, où on peut passer. C'est un parc de verdure avec les magnifiques arbres centenaires et avec une sculpture de Monsieur Estopé avec un vol d'oiseau. C'est un endroit qui amène à simplement rencontrer les gens, à pouvoir s'arrêter un moment, comme le temps passe très vite. C'est certainement un endroit où on va aimer s'arrêter.
C'était un sujet proposé par Basile Dayer.
Un rallye de moto organisé par la police.
150 motards de la région ont participé ce samedi à un rallye non pas de vitesse, mais de prévention routière. À l'initiative de cet événement, la police cantonale valaisanne qui souhaite inculquer une vision sécuritaire de la conduite tout en proposant une activité ludique lui permettant de se rapprocher des usagers de la route. Le sergent Laurent Détienne se réjouit de la portée que peut avoir cette action de prévention.
On a notre fidèle clientèle, des motards aguerris qui depuis de nombreuses années suivent les événements organisés en participation, du moins en collaboration avec la police. Mais étonnamment, d'ailleurs ce matin je me suis occupé d'une partie de ces inscriptions et puis j'ai rencontré plein de jeunes de moins de 20 ans qui s'intéressent déjà à la sécurité. Et pour nous c'est important parce que c'est eux finalement qui vont transmettre les bonnes instructions, les bons conseils à leurs collègues qui sont peut-être pas venus aujourd'hui, mais j'en suis persuadé qu'ils viendront l'année prochaine ou dans 2 ans.
Laurent Détienne était au micro de Basile Dayer. À noter que la police cantonale vaudoise organisera elle aussi un événement de sensibilisation pour les motards le week-end du 21 et 22 juin.
La situation se stabilise progressivement dans le Val-de-Bagne.
Frappée début juin par plusieurs laves torrentielles, la cellule de crise locale a validé la levée des évacuations pour le hameau des Épenais et la zone ferme du Fraignolet. Elle révèle que la fonte des neiges est en baisse et qu'il n'y a plus eu de laves torrentielles depuis le 8 juin et que les GPS témoins des mouvements en altitude ont baissé d'intensité. Sur place, une vingtaine de machines seront engagées toute la semaine. Dans la partie centrale du cône de déjection, les extractions se poursuivront et des travaux de minage devraient avoir lieu. La préparation de l'accueil du futur pont militaire a également commencé. Celui-ci sera construit en aval de l'ancien pont fusible du Fraignolet, emporté le 2 juin par une lave torrentielle. La création de la route d'accès ainsi que la plateforme en rive droite du Fraignolet est aussi en bonne voie, tout comme celle de rive gauche. Et près de 300 appels ont été adressés hier au service d'urgence neuchâtelois après le violent orage qui s'est abattu sur le littoral avec des vents soufflant jusqu'à 140 km/h. De nombreux arbres sont tombés et des routes ont été coupées. Les pompiers ont dû intervenir hier à 24 reprises. Des recherches préventives ont été effectuées sur le lac par les pompiers, la société de sauvetage du Balac et la police. Cette dernière est intervenue à une dizaine de reprises en soutien aux pompiers. Si le littoral neuchâtelois a été particulièrement touché, des dégâts sont survenus aussi à la Chaux-de-Fonds et au Val de Travers. Par ailleurs, le site du Festineuch a été évacué. Le festival et ses partenaires présents sur le site ont subi des dégâts considérables, encore impossibles à évaluer.
Les prévisions du SECO sont pessimistes.
Les bons résultats économiques du début d'année seront contrebalancés par un second semestre 2025 morose et une année 2026 incertaine. Ce matin, les experts économiques du SECO abaissent leurs prévisions de croissance à 1,3% pour 2025 et seulement 1,2% pour 2026. L'incertitude commerciale mondiale et géopolitique amène les experts à tergiverser. Ça pourrait être mieux, mais pire aussi. Le pessimisme est le plus probable. À Berne, les explications de notre correspondant Serge Jubin.
L'anticipation de la hausse des droits de douane aux États-Unis a boosté la première partie de l'année dans le domaine tertiaire ou de l'industrie chimique et pharmaceutique, mais l'incertitude actuelle pèse lourd, même si les experts tablent sur des droits de douane de 10% avec les États-Unis comme actuellement. La croissance du PIB en Suisse ne devrait ainsi être que de 1,3% en 2025. Heureusement que l'activité intérieure du pays se porte bien grâce au taux d'intérêt bas et à une inflation nulle ou à peine positive à 0,1%. Les affaires ne devraient pas s'améliorer l'année prochaine. Au contraire, le SECO prévoit même une hausse modérée du chômage de 2,9 à 3,2%. L'incertitude conduit les experts à produire deux autres scénarios opposés. L'un s'appuie sur l'hypothèse d'une détente des relations internationales doublé de plans de relance massifs comme en Allemagne, avec un effet positif sur la croissance en Suisse aussi. À l'inverse, il faut prendre en compte le risque de voir les États-Unis imposer des droits de douane supérieurs à 10% avec un plongeon des marchés boursiers et un renforcement encore du franc suisse. C'est le scénario du pire qui péjorerait aussi la situation économique suisse. Les experts universitaires du COF zurichois partagent l'analyse des experts institutionnels du SECO. Jeudi qui vient, la Banque nationale donnera sa lecture de la situation.
C'était notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Retour au calme après la rave party bernoise illégale.
Les centaines de participants à la rave party illégale qui a eu lieu ce week-end dans un pâturage au-dessus de Malraix dans le canton de Berne ont quitté les lieux. Lors de sa visite, le maire de Valbirz n'a constaté aucun dégât sur la place de pique-nique. Les déchets ont été ramassés, mais l'herbe est piétinée. Jacques-Henri Juffer a toutefois rappelé que cette fête illégale a dérangé la faune et les habitants des communes de la vallée de Tavannes. Rappelons aussi que deux policiers ont été blessés samedi soir lors de l'intervention.
L'ONU demande de la modération aux États-Unis.
L'ONU appelle à ne pas recourir à la force militaire contre les manifestants aux États-Unis alors que les autorités civiles peuvent se charger de maintenir l'ordre. Sans le nommer, le haut commissaire aux droits de l'homme a ciblé Donald Trump aujourd'hui à Genève. L'UFC Martigny Sport retrouvera la Première Ligue 2 ans après l'avoir quittée. Vainqueur samedi du CS Romontois 5-1, la formation entraînée par Hugo Razinski a pris le deuxième rang du championnat de deuxième ligue inter. Fortune inverse cependant pour l'US Colombais Murat. L'équipe chablaisienne s'est imposée 1-0 lors de l'ultime ronde, mais n'a pas pu éviter la relégation 12 mois seulement après avoir rejoint la 5e division helvétique. L'USCM termine 14e du classement avec 35 points.
L'équipe suisse de volley féminine poursuit sur sa lancée.
Elle conclut la Silver League avec un sixième succès en autant de matchs. Les protégées de Laurent Bertolucci ont battu l'Autriche chez elles 3-0. Elles ont gagné toutes leurs parties en 3 manches. La Suisse affrontera en finale la Lettonie en match aller-retour. Le vainqueur sera promu en Golden League.
L'actu en continu, radiochablais.ca. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Blanc. Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Nicolas Yos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Swiss Wine Promotion, la promotion des vins suisses. On va évidemment parler de ces missions avec vous aujourd'hui. On s'est donné rendez-vous à Saint-Trifon. Je suis dans une vieille ferme vigneronne du Chablais. Pourquoi ici ?
C'est ma maison de naissance, puisque j'ai fait toute mon enfance ici. Je suis né officiellement à l'hôpital d'Aigle, mais j'ai fait toute mon enfance et mes écoles ici dans le Chablais. C'est la maison familiale que mes parents habitent encore aujourd'hui et qui a été aussi mes grands-parents avant, etc.
Ça veut dire un domaine viticole autour ?
Agricole et viticole, avec un peu environ un demi-hectare de vignes qui est là depuis les années fin des années 30. Et puis mon grand-père à l'époque était exploitant agricole avec de la grande culture principalement et du bétail qui a évolué. Aujourd'hui, il y a plus de bétail. La grande culture et les terrains sont exploités par d'autres paysans, puisque mes parents ne sont pas du tout agriculteurs. Ils ont juste gardé la viticulture pour le plaisir et la transmission, on va dire, de génération en génération.
Ça sera votre... Vous allez reprendre cela ?
Alors oui et non, c'est pas du tout viable en l'état. C'est surtout eux, ils sont avant tout des producteurs de raisins qui fournissent une grande cave et un petit producteur. On produit depuis 2010 une petite cuvée familiale pour la symbolique d'un terroir. J'ai continué cette tradition, mais ça ne reste bien sûr plus un hobby, un plaisir avant tout.
Bon, ça vous donne. Moi, je vous ai connu alors à l'Office des vins vaudois, puis secrétaire général du Mondial du Chasselas, maintenant Suisse.
Mondial
de Bruxelles, oui, pardon, je les confonds. Mondial de Bruxelles qui se tenait à Aigle sur les terres du Mondial du Chasselas, mais évidemment une autre envergure. Alors ça vous a fait baigner justement dans cet univers de la vigne et du vin depuis que je vous connais. Avant ça, il y a eu d'autres expériences, mais cette connaissance intime de ce qu'est le métier de la terre, de ce qu'est la vigne, ouais. ça a mis une direction à votre vie, à votre carrière ?
Alors, initialement, j'ai commencé...
Intime et précoce, hein,
ouais,
l'enfance.
Précoce. Ouais. Alors, je pense que j'ai eu la grande chance depuis le début de toucher, de goûter à toute cette culture vitivinicole, puisqu'enfant, on traînait dans les vignes régulièrement, on participait aux vendanges, on participait aussi avant, aux effeuilles principalement. On nous mettait un tout petit peu déjà dans le bain. Mais j'ai pas choisi cette filière quand j'ai fini mon école obligatoire. J'étais très passionné de cuisine. J'ai eu la chance de faire un apprentissage de cuisinier avec un complément en sommellerie à Villars-sur-Ollon, à l'Hôtel Victoria à l'époque, avec un chef qui était appelé Joël Quentin, qui était quelqu'un exceptionnel. Il était très connu surtout pour les herbes sauvages, la maîtrise des herbes sauvages. C'était une super équipe, une brigade.
Ça a été très à la mode, enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, hein, mais je me souviens de la panne des Bossettes dans le canton de Fribourg, qui était renommée pour ça. Il y a eu toute une tendance comme ça à la fin des années 90.
Complètement, avec
aller chercher ces herbes dans la nature.
Le grand précurseur, c'était François Couplan, qui était le botaniste de renommée et qui a accompagné tous ses chefs. Et j'ai eu la chance, fin des années 90, de faire l'apprentissage avec Joël Quentin, qui m'a initié aussi à ça et qui m'a fait continuer l'envie de cuisiner. Je me suis déjà aussi beaucoup intéressé à ce moment-là à la sommellerie. Et puis, l'histoire a fait que j'ai pu partir à Genève faire mon école hôtelière, qui m'a aussi ouvert d'autres portes, d'autres ouvertures, qui m'a incité aussi à une autre découverte de l'hôtellerie-restauration. Et tout en gardant un lien avec le vin, toujours passionné, je dégustais énormément. Je prenais même dans mes vacances officielles et mes pauses, je prenais vacances en octobre pour venir faire les vendanges. Pour venir faire les vendanges, pas que dans la famille, mais également dans une cave qui est une amitié aujourd'hui, qui est Bernard Cavé, qui m'a toujours dit viens comprendre, viens
des
faire.
Grands noms du terroir chablaisien.
Voilà, exactement. Et je venais prendre trois semaines de vacances pour travailler à la cave pour comprendre le millésime. Et c'était toujours été une passion. Je l'ai fait pendant 6-7 ans.
Vous n'êtes pas parti, hein. Souvent, l'école hôtelière, ça mène à Singapour, à Santiago du Chili.
L'envie était là. Ouais. Le marché à ce moment-là était radicalement différent. Et donc, j'ai eu une opportunité de partir à Gstaad en sortant de l'école hôtelière. Ce qui était très dépaysant et surtout un intérêt. Je me souviens à l'école hôtelière, lorsqu'on avait dit, il y a une opportunité, peut-être Gstaad, ça intéresse quelqu'un. Il n'y avait pas grand monde qui levait la main, j'étais un peu le seul, et parce que c'était la peur de ça va être en allemand, ça va être c'est du suisse allemand, du berndeutsch, ça va aller. Et j'ai dit, mais on est là pour apprendre et pour développer. Alors c'est sûr que ça m'a beaucoup développé mes langues, ça m'a beaucoup développé aussi ce mélange culturel. Et je devais y aller pour 5 mois, j'y suis resté 3 ans et demi. Donc,
ça a donné une ligne capitale. Vous venez d'aborder les langues, hein. Aujourd'hui vous travaillez en Suisse alémanique, vous travaillez à Berne. Swiss Wine Promotion est un organisme national, donc forcément vous pratiquez l'allemand au moins autant que le français, j'imagine, et l'anglais. Oui.
Je pratique trois langues nationales sur quatre et l'anglais en plus. La chance
aussi.
Dans
le métier, je veux dire.
Dans le métier. Ouais, ouais. Faut pas oublier. Alors, le tessin et les italophones, mais pas seulement. Il faut penser aussi que sur les marchés internationaux, on n'a pas toujours qui parle l'anglais, donc on a aussi des variations. Mais nous parlons, et dans le bureau, en français comme en allemand, avec l'ensemble de mon équipe, puisque même si le vignoble est majoritairement francophone et latin, l'ensemble de la clientèle et de nos partenaires sont majoritairement germanophones. Donc,
bon, l'équipe. Le vin dans sa mise en valeur, hein, c'est un peu votre votre étiquette depuis que je vous connais, utilisons ce mot d'étiquette, après tout on est dans le vin, l'office des vins vaudois, puis les expériences suivantes, c'est vraiment voilà, on a un terroir, on sait ce qu'il vaut, on va essayer de le mettre en valeur, voilà, ça pourrait presque être écrit sur la porte de Swiss Wine Promotion, c'est le job.
C'est une partie du job, avant de dire juste le mettre en valeur, il faut qu'on a aussi un changement de société qu'on doit prendre en compte et on doit arriver vers des consommateurs, pas juste goûter cet terroir, mais prenez le temps de goûter quelque chose. On a un changement de société qui a radicalement changé avec les générations et la promotion des vins suisses et la promotion régionale, parce que c'est exactement une déclinaison, elle doit aussi changer de cap et pas juste dire c'est un bon terroir, goûtez-le. Non, prenez le temps de découvrir ce que c'est que du vin, qu'est-ce que c'est qu'un produit issu de la vigne, et ça c'est quelque chose qui a manqué énormément dans les nouvelles générations. On a tendance à préjuger en disant les jeunes ne consomment plus comme nous, comme les anciens, c'est vrai, mais ils consomment pas beaucoup moins, ils veulent consommer différemment. Et donc ils ont surtout besoin de découvrir, qu'on les éduque un tout petit peu à cet art, cette culture vitivinicole.
C'est un besoin qui est exprimé ou vous estimez qu'ils ont besoin de ça pour y venir?
C'est un besoin qu'on a analysé. On a étudié énormément aussi les consommateurs. On a besoin de comprendre si nos actions de promotion, elles sont porteuses, si ce qui est produit, imaginé, correspond et a un impact. Et à cette réponse, on régulièrement, tous les 3-4 ans, on fait des études de consommateurs et on a le signal assez fort de plus en plus qu'aujourd'hui, la jeune génération cherche différemment et veut juste comprendre pourquoi on défend aussi cette culture vitivinicole et que c'est pas simplement une belle carte postale sur le bord du lac. C'est pour y arriver, il y a un travail de vigneronne et de vigneron et c'est ça qu'ils ont besoin. C'est une soif de connaissance avant tout, avant une soif de liquide.
Alors en amont de vos études fines, il y a un constat, c'est celui de la baisse de quantité consommée par les Suisses et les Suisses, et je pense que c'est une tendance européenne.
Totalement.
Mais je n'en sais rien, voilà, vous
totalement
confirmez.
Mondial.
Voilà, alors les ministères de la Santé diraient que c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, je ne sais pas si ça se répartit sur d'autres alcools, si c'est la diversité qui fait ça, ou s'il y a quand même un changement lié à la santé, à tout ce qu'on entend.
Il y a plusieurs facteurs. Il y a une réalité, c'est que la prévention contre la surconsommation de produits alcooliques est extrêmement forte et justifiée et porte ses fruits, puisqu'on voit qu'une des préoccupations premières du consommateur qui ne consomme même pas de vin, c'est pour des problèmes de santé. Donc bravo et tant mieux, parce que ça montre aussi qu'on est préoccupé par rapport à ça. Mais le vin ne fait pas partie de ce secteur-là. Le vin n'est pas une boisson alcoolique. Le vin contient de l'alcool. Vous avez entre 12 et 14% d'alcool dans du vin. Donc inversement, vous avez quand même un volume d'autres liquides bien plus important. La diminution de la consommation, c'est aussi des habitudes courantes aujourd'hui. Vous allez à midi dans un restaurant de village manger un plat du jour, vous allez pouvoir compter le nombre de personnes qui peut-être prendront un verre de vin. Il y a 20 ans en arrière, combien de personnes ne prenaient pas une bouteille ? On a un changement d'habitude et de société. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre conscience. Donc les produits qu'on a proposés évoluent également. Et puis, ce qu'il faut prendre aussi en compte, peut-être en plus avant tout, c'est que ce que les vins, les types de vins qu'on consommait hier ne sont plus les vins qu'on consomme aujourd'hui ou demain. On voit des trends très importants, le rosé aujourd'hui ou les mousseux sont devenus extrêmement à la mode, alors que dans les régions comme la Suisse, on avait peu d'habitude sur ce type de produit. Et j'aime toujours me rappeler...
Mépriser à un moment donné les rosés.
Ah, et c'est exactement ce que je vais vous dire, ouais. C'est exactement ça. C'était le nombre de vignerons et vignerons que j'entendais. Oh, je fais du rosé, mais bon, j'aime pas ça. Mais justement, mais... Il ne faut pas en faire si vous ne l'aimez pas. Faites ce que vous aimez parce qu'on va le ressentir dans le produit. Et aujourd'hui, on a des jeunes générations qui nous font des rosés exceptionnels parce qu'ils sont passionnés de ça. Et tant mieux. Et on a plaisir, nous, à les faire découvrir parce qu'on va le sentir à la fin. Le produit n'est pas un simple liquide. Le produit, une émotion. Et donc, on le sent de A à Z s'il a été fait avec plaisir, avec amour, ou s'il a été fait par obligation.
Bon, il y a, on va revenir hein, sur toutes ces notions-là dans la deuxième partie de cette émission. Swiss Wine Promotion, c'est 6 régions viticoles, j'ai vu. Hein. On considère la Suisse alémanique comme une région. Vaud, Valais, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le Tessin?
Là, on va les prendre dans l'ordre, comme ouais. Ça, on est.
Ça, vous êtes sûr de pas.
Voilà, pas les oublier. La plus grande région, c'est le Valais, suivi du canton de Vaud. En troisième région, on parle donc de Suisse alémanique, où on regroupe les 18 cantons Suisse alémanique ensemble au niveau de la structure interprofessionnelle. Suivra après le canton de Genève, le canton du Tessin. Et la dernière région, c'est la région qu'on appelle Trois Lacs, qui regroupe le canton de Neuchâtel, le Vuy, le canton du Jura et la partie bernoise, le Billerset, la partie lac de Bienne, qui est rattachée aux Trois Lacs, malgré que c'est le canton de Berne. Ça peut une différence entre la zone de Spitz, au bord du lac de Spitz et de lac de Thun, et de Brienz, qui est rattaché à la partie suisse-alémanique, alors que le bord du lac de Bienne est rattaché aux Trois Lacs.
Ah, c'est très précis tout ça.
C'est très bien pensé.
Quand on a passé des années comme vous à défendre les vins vaudois, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez changé de job? Vous avez dû faire un petit lavage de cerveau? Vous vous êtes dit, il faut pas que je favorise mes anciens petits?
Ah, c'est pas des petits, on va être très honnête, ils ont une tradition millénaire.
Petit, pas dans le sens petit, dans le sens protégé, voilà.
Je pense que c'était aussi une des craintes peut-être aussi de mes collègues des autres cantons, puisqu'on ouais. on se côtoyait régulièrement dans les commissions de coordination nationale. Je dis oui, mais si c'est Nicolas, est-ce que ça va être différent? Et je pense que mes deux ans au concours mondial m'ont apporté beaucoup cette séparation. J'ai vu un regard totalement différent, une approche où c'est pas la région qui m'intéresse, c'est l'authenticité de chaque région qui devient importante. Et l'expérience des vins vaudois m'a formé énormément pour justement apporter aussi cet équilibre entre les régions, parce que peut-être les gens ne le savent pas, mais dans le canton de Vaud, il y a également des grandes nuances dans les vins, mais aussi dans les personnages du vin selon la région viticole. Nous avons toujours un peu des fois des tensions, des regards différents entre la plus grande région en surface, qui est la région de la côte, face aux deux régions à peut-être une notoriété différente, que sont la Vaud patrimoine mondial ou le Chablais. Et on oublie souvent les régions du nord vaudois qu'on négligeait un tout petit peu par le passé, qui ont des pépites extraordinaires, que soient les côtes de l'Orbe, le Bonvillard ou le Vuy canton de Vaud, qui est groupé aujourd'hui avec le Vuy fribourgeois. Mmh. Donc il y avait déjà ces tensions, donc je reprenais un peu le même schéma avec un mélange là, entre deux langues, deux types de cépages et de cultures totalement différentes.
Culture du vin différente,
puisque les habitudes en Suisse alémanique, par exemple, ne sont pas tout à fait les mêmes qu'au Tessin ou en Suisse romande. Et on avait, on va dire, les cantons historiques tradition, avec le canton du Valais, le canton de Vaud, qui faisait face à la modernité du canton de Genève, qui s'est réformé il y a très longtemps et qui apporte une diversité incroyable, et la partie alémanique où on a des jeunes générations qui il y avait pas d'historique ou pas de notoriété et qui doivent se défendre face à des traditions.
Bon, c'est étonnant hein, de voir à l'échelon suisse finalement les mêmes soucis que l'Europe avec ses différents terroirs, ses différentes cultures du vin, etc. C'est votre métier, c'est votre passion. On va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Nicolas Lios, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On parlait de la variété hein, dans ce petit arbre-poste qu'est la Suisse au milieu de l'Europe et a fortiori la Suisse vinicole. Malgré cela, une grande diversité. C'est vrai qu'on a un terroir, j'imagine, qui correspond à une grande région espagnole ou une grande région française. Et puis là-dedans, on a des caractères très différents.
C'est un melting pot de culture et d'habitudes et de cépages pour la Suisse. C'est extraordinaire quand on a plus de 250 cépages référencés en Suisse, près du.
Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, pour la promotion, parce que je voyais ça de deux façons. Hein. D'un côté, il y a voyez la richesse et la diversité, puis de l'autre, il y a quand même une difficulté à mettre.
C'est une grande difficulté, tout à fait, parce que le fait, c'est qu'on a des petites productions pour chaque cépage. Alors, les 252 sont pas tous en production en vinification. On a environ pas tout à fait 90-95 cépages qui sont en production pour faire du vin. Mais même ça, c'est moins difficile. Alors, si vous avez des cépages internationaux et classiques, c'est un peu plus simple. Mais lorsque vous allez dans des cépages indigènes, et là, le canton du Valais en regorge énormément, ça devient vite une complexité pour sortir ces cépages hors de sa zone. Mmh. Par manque de disponibilité, par aussi difficulté d'explication aussi aux consommateurs. On a des cépages, il faut pas l'oublier, qu'on a supprimés avec le temps parce qu'on considérait qu'ils étaient plus commercialement justes ou difficiles à produire. Alors que, et maintenant, on a un effet en arrière. On revient avec des cépages indigènes historiques, ce qui, personnellement, moi, me réjouit. Je pense que la Suisse doit être fière de ce qu'elle a et pas toujours copier toujours ce que les autres ont fait. J'aime beaucoup les cépages du monde entier, mais j'avoue que quand on est en Suisse, les gens qui veulent goûter la Suisse, ils veulent goûter le cépage du terroir. Bon, des chardonnays, on en a partout dans le monde. Ils sont seulement très bons en Suisse. Mais très honnêtement, une petite Arvine est bien supérieure à beaucoup de nos chardonnays en Suisse. Il faut sortir de notre identité. Ça, c'est la marque la plus difficile aujourd'hui.
On a cette particularité, hein, je le disais, d'un terroir petit, en plus très varié. Donc, on peut pas dire le Riesling suisse, comme on peut le dire pour l'Alsace. On peut pas dire tel cépage, c'est notre cépage. Et puis, on a cet îlot de Cherté, qui est la Suisse, hein, au milieu de l'Europe. Donc, ça cumule un petit peu les difficultés. J'ai regardé les quantités, alors vous me direz si c'est juste, on est à peu près à 100 millions de litres hein, par année
dans une année pleine,
dont 99% est consommé en Suisse, ou en tout cas 1% seulement est exporté. Hein. On éponge les 99%?
Alors, les années difficiles, comme on vient de vivre 2024, avec une vendange à 75 millions de litres, donc on est 25% dessous d'une année pleine, fausse radicalement aussi la consommation. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que on produit en dessous de notre capacité pour maintenir un marché. Donc, il est difficile aujourd'hui de commercialiser du vin. Mais la réponse aussi, c'est de faut prendre les questions. Pourquoi on a de la difficulté? Il y a pas mal de choses qui sont